BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
Bienvenue à tous. Jusqu'à 18h, on va vivre ensemble tous les moments clés de cette nouvelle séance en Europe. Notre CAC 40, les indices européens qui piétinent un petit peu là en ce début de semaine. Effectivement, semaine raccourcie d'ailleurs. Ce sera une semaine de 4 jours puisque comme à chaque veille de week-end pascal, vendredi prochain, les marchés en Europe et aux États-Unis seront pour la plupart fermés. Semaine raccourcie, mais dense et intéressante. On va en parler, vous apporter des clés d'anticipation puis des valeurs qui se distinguent aujourd'hui. Bénive, sur le marché parisien, progresse fortement. Plus forte hausse du SRD. On suit aussi l'or, l'once d'or qui a battu tout à l'heure. De nouveaux records, on va aussi beaucoup en parler. Mais d'abord, Wall Street a ouvert il y a maintenant une heure. Effectivement, Wall Street qui a ouvert avec ce décalage horaire, toujours puisque les Américains sont déjà passés à l'heure d'été. Oui, ils font toujours tout avant nous, les Américains. Ils sont en avance. Et John Plassard est dans la place. Bonjour John, depuis les bureaux de Mirabeau.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. On va analyser avec vous cette séance américaine. Aude Kersulec aussi avec nous depuis la Tour Euronext. Bonjour Aude, ravi aussi de vous retrouver en direct sur BFM Business.
Bonjour.
Une heure de cotation aux États-Unis. Comment ça se passe aujourd'hui, Aude?
Eh bien, même s'ils sont en avance, les Américains, là, ils sont en baisse, les indices, depuis une heure. Hein, moins 0,15% pour le Nasdaq, moins 0,17% pour le S&P 500, et c'est même un petit peu plus pour le Dow Jones, moins 0,26% au début d'une petite semaine. Hein, c'est vrai, on n'aura pas deux séances vendredi. La course vers les records qui semble légèrement pour le moment s'arrêter. On a notamment des mauvaises nouvelles hein, dans la tech, on va en parler dans un instant, mais on a par exemple Intel et Apple qui sont en baisse de entre 1,5 et moins 2%. Nvidia en revanche est à la hausse hein, cet après-midi, on prend 2%. En tout cas, donc la dernière semaine du mois, mais on est quand même en route hein, vers un cinquième mois consécutif de hausse pour ce début d'année.
Effectivement, et Nvidia qui gagne 2%, qui est à moins de 300 milliards de dollars d'Apple. Désormais Nvidia qui vient vraiment peut-être se mettre en position de doubler Apple d'ici la fin du mois d'avril. Si Nvidia progresse encore dans les 4 prochaines semaines au même rythme qu'il a progressé ces 4 dernières semaines, Nvidia passera d'ici fin avril devant le titre Apple. Ce serait quand même un sacré symbole. John Plassard est avec nous donc depuis Mirabeau. Bonjour John, content de vous retrouver également. Quels seront les principaux rendez-vous à venir cette semaine aux États-Unis ?
Bah écoutez Guillaume, pas grand chose, mais officiellement, si on regarde demain, on va avoir les commandes de biens durables aux États-Unis, on va avoir la confiance du consommateur. On sait que la confiance est très importante, hein. On parle de soft landing ou de no landing, donc ça nous donnera un peu plus d'indications. Jeudi, on aura la dernière lecture de la croissance américaine pour le quatrième trimestre 2023. Je vous rappelle quand même qu'on était à 3,2%, donc ça devrait être confirmé. Et vendredi, bah, les marchés seront fermés, mais c'est le chiffre de la semaine, c'est le chiffre PCE, l'inflation de février aux États-Unis qui devrait légèrement remonter au niveau annuel en passant de 2,4% à 2,5%. Donc potentiellement, ça pourrait mettre un peu plus de volatilité sur les marchés la semaine prochaine puisque vendredi est fermé. Et on a aussi Jérôme Powell qui va faire des commentaires sur le marché vendredi. Mais évidemment, les réactions à attendre seront la semaine prochaine.
C'est la dernière semaine du trimestre là qu'on est en train de vivre sur les marchés. On va passer au mois d'avril dès vendredi. Dernière semaine du trimestre, le moment haut de tirer un premier bilan justement du premier trimestre et du début de l'année sur les marchés.
Ah oui, surtout après la course record hein, qu'on a eue ces dernières semaines, bon, qui s'interrompt légèrement en ce début de semaine. Alors en tout cas, on a l'indice, le S&P qui a progressé de 2,3% la semaine dernière. Pourtant, John, vous allez nous dire que le S&P, quand même, depuis le début de l'année, bah, il a connu que son 15e meilleur début d'année. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore du potentiel pour aller plus haut cette année?
Ça paraît assez fou, Aude, parce qu'effectivement, on fait environ du plus 10% depuis le début de l'année sur le S&P 500. Et c'est seulement, comme vous l'avez dit, le 15e meilleur démarrage de l'année depuis 1928. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a encore un moteur derrière ces marchés, un moteur pour que les indices continuent à monter. Alors, la première des choses, c'est bien évidemment les anticipations de baisse de taux aux États-Unis à partir de juin. La deuxième des choses, eh bien, c'est la résilience de l'économie. On a vu que l'économie américaine qui devrait progresser de près de 2,5% lors du premier trimestre, eh bien, n'arrive pas à fléchir. C'est une bonne nouvelle. Et puis, les résultats des entreprises américaines pour le premier trimestre, qui vont être publiés dans deux semaines. Et puis, au niveau technique, eh bien, c'est la Bank of America qui nous rappelle ici que le S&P 500 entre dans son 11e année, dans sa 11e année de hausse d'un bull market séculaire, c'est-à-dire un bull market sur le long terme. On avait eu la même chose entre 1950 et 1966 et entre 1980 et 2000. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire, tenez-vous bien, haute que potentiellement. Si on regarde au niveau technique, eh bien le S&P 500 pourrait continuer à monter durant ces 3-4 prochaines années.
Même si, bien sûr, et on le rappelle régulièrement, les performances passées ne présagent pas des performances à venir. Mais c'est intéressant. Et effectivement, malgré tous ces records sur les indices américains, le S&P n'est en train de vivre que son 15e meilleur début d'année depuis 1928. Donc peut-être encore du potentiel à venir. Aux États-Unis, on se prépare toujours pour la présidentielle. On est à 227 jours maintenant. 227 jours du scrutin. Et pour Donald Trump, on est déjà sur le jour J, là. Une première étape importante pour l'ex-président américain qui se présente à nouveau dans le camp républicain. Donald Trump va-t-il réussir, John, et il le saura sans doute aujourd'hui, à réunir l'argent nécessaire s'il espère déposer une caution dans son jugement pour fraude civile?
Ouais, très important, très très important, parce qu'on sait que les Américains, s'ils devaient être condamnés, on est dans une situation où moins d'Américains voteraient pour lui, c'est les sondages qui nous le disent. On rappelle quand même les montants, Guillaume, il doit apparemment, il a fait appel évidemment, 450 millions de dollars, ou 464 si on ajoute les sommes dues par ses fils et par la Trump Administration. Et en fait, on nous rappelle ici aux États-Unis, parce qu'évidemment tout le monde en parle, que s'il n'arrive pas à réunir une caution, des biens tels que ses immeubles, ses maisons, les voitures, les hélicoptères et son avion sont en jeu. Et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'au niveau juridique, l'accent pourrait être mis sur ses comptes bancaires qui, selon les experts, seront beaucoup plus faciles à saisir que ses propriétés, notamment sa propriété en Floride. Alors évidemment, Donald Trump a demandé à une cour d'appel aux États-Unis à l'autoriser à déposer une caution moins élevée, voire pas de caution du tout, parce qu'il rappelle que s'il était obligé de vendre du jour au lendemain ses biens immobiliers et, comme on l'a dit, ses hélicoptères et avions, eh bien, le prix ne reflèterait pas les prix de la réalité. Donc, une bataille judiciaire et un jour très, très important pour Trump et potentiellement pour les gens qui vont voter pour lui en novembre prochain.
Effectivement, journée importante pour Donald Trump qui, s'il espère effectivement pouvoir obtenir une caution pour jugement de fraude civile, va devoir pour cela réunir l'argent. Il aura là-dessus donc de premières indications, de premières pistes dans les prochaines heures. Wall Street ouvre donc légèrement dans le rouge aujourd'hui. On est à maintenant 1h07 de cotation. Et un titre qu'on va surveiller, Intel, AMD aussi, des grandes pressions chinoises sur Intel et AMD. Intel perd 2%, on va tout vous expliquer dans un instant. Mais d'abord, Aude, un coup d'œil aussi dans l'aérien au titre Boeing, à ne pas rater Boeing aujourd'hui.
C'est la fois entreprise de ce lundi matin à Wall Street. David Calhoun, le directeur général, hein, il n'est pas président du conseil d'administration, qui va démissionner. Alors, ce n'est pas effectif maintenant, hein, ce sera à la fin de l'année. L'action, elle est en hausse aujourd'hui, hein, plus 0,8% pour Boeing, mais tout de même, on perd 26% depuis le début de l'année. Alors, l'action, si le CEO part à la fin de l'année, John, est-ce qu'elle peut remonter d'ici la fin de l'année ?
Bah écoutez, c'est une des raisons de la remontée, c'est que on essaye évidemment de trouver des coupables au déboire de Boeing depuis le début de l'année. Je vous rappelle quand même que on a une porte d'un avion d'Alaska Airways qui est parti, une roue qui est partie sur un avion de American United Airlines, etc., etc. Et donc on est ici dans une situation où a été reproché au CEO qui va quitter, comme vous l'avez dit, Aude, la société à la fin de l'année, d'avoir privilégié les ventes plutôt que la sécurité. Ça paraît assez fou, mais face à une concurrence accrue par rapport à Airbus, eh bien, on accuse le CEO partant d'avoir voulu accélérer la cadence des ventes et de la fabrication des Boeing au détriment de la sécurité, comme je le disais. Donc, c'est un premier pas, mais évidemment, il va falloir absolument pas qu'il y ait de nouvelles négatives sur Boeing et surtout qu'on nous confirme que la sécurité sur ces avions a été mise en avant, a été privilégiée face aux ventes d'avions pour concurrencer Airbus.
Et donc le directeur général qui va s'en aller en fin d'année, Boeing réagit bien en bourse, plus 1,5%. En revanche, on le disait, dans le secteur des puces, grosse pression chinoise, AMD et Intel reculent, notamment Intel aujourd'hui, moins 2%, AMD moins 0,6%.
Oui, il faut rappeler une chose, Guillaume, c'est que les États-Unis ont pris d'abord plusieurs mesures pour empêcher les entreprises chinoises d'acquérir les dernières puces d'intelligence artificielle, d'ASML et de Nvidia, et d'envoyer ces machines de fabrication de puces avancées à Pékin. Alors, c'était assez logique, d'une certaine manière, que Pékin réplique en ripostant, en introduisant de nouvelles directives selon lesquelles les puces, comme vous l'avez dit, d'Intel et d'AMD seront progressivement retirées des PC et des serveurs du gouvernement. Ça nous fait penser à l'utilisation notamment des iPhones dont on parlait en fin d'année passée. Et on est dans une situation où Pékin intensifie sa campagne visant à remplacer la technologie étrangère par les solutions locales. Et donc, évidemment, aussi les téléphones locaux. Donc, on est aussi dans une situation où le gouvernement va essayer d'écarter de plus en plus le système d'exploitation Windows de Microsoft. Et on va avoir, évidemment, une intensification de la guerre commerciale, parce qu'on peut appeler ça une guerre commerciale, même avant l'arrivée potentielle de Donald Trump en novembre.
Effectivement, John Blassard avec nous depuis les bureaux de Mirabeau pour les marchés américains. Le suivi, Wall Street qui a ouvert il y a un peu plus d'une heure dix, en légère baisse les indices US. Aude Kersulek aussi est avec nous, puis la Tour Euronext. Et Aude, vous continuez de nous accompagner bien sûr tout au long de l'après-midi. L'once d'or est sur de nouveaux records aujourd'hui. On a une once d'or aujourd'hui à l'instant à $2,180. C'est l'objet de la question du jour, celle qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux, notre fil LinkedIn, BFM Bourse, notre fil X Twitter aussi. Pour vous, quelle matière première progressera le plus dans les 10 années à venir? Est-ce que ce sera encore l'or? Est-ce que ce sera le cuivre, la transition énergétique, par exemple, le nickel? Ou pourquoi pas le cacao? Le cacao qui s'envole littéralement, lui aussi, en raison, bien sûr, des difficultés climatiques sur les régions dans lesquelles le cacao parvient à pousser, alors que la demande mondiale, elle, en cacao et en chocolat, ne cesse de progresser. Laquelle de ces matières premières progressera le plus dans les 10 ans à venir? Continuez de voter, vous êtes assez nombreux d'ailleurs à vouloir répondre. Et on rebondira sur vos réponses et vos commentaires dans un peu plus d'une heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse, qui se réunira, comme chaque jour, à partir de 16h30 tout à l'heure. La Bourse Cash, chaque jour, 15h40. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Salle qui nous rejoint, le président de la Financière de la Cité. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Guillaume.
Vous voulez dire leurs quatre vérités au marché, Emmanuel? Vous êtes sûr?
Je suis sûr.
Pour vous, et c'est le message que vous venez faire passer aujourd'hui aux investisseurs, pour vous, il a raison le PDG de Renault. Il a raison le PDG de Renault d'alerter sur l'impréparation européenne face à la Chine. Vous l'assumez?
Je l'assume.
C'est chaud. Le patron de Renault, le PDG de Renault, a raison d'alerter sur l'impréparation européenne face à la Chine. Pourquoi était-il urgent de le dire aujourd'hui à nos auditeurs et téléspectateurs, Emmanuel?
Écoutez, effectivement, le PDG de Renault, Monsieur Sénard, a été auditionné récemment par la Commission économique du Sénat. Il a tenu des propos extrêmement pertinents, avec beaucoup d'une très grande pondération sur la stratégie européenne face à la Chine concernant le sujet qui l'intéresse au plus haut point, qui est celui des véhicules électriques. Mais je pense que ces propos peuvent avoir un impact plus large. Effectivement, l'Union européenne s'est engagée dans un processus d'électrification de son parc de véhicules électriques, et semble-t-il, sans avoir pris en considération l'ensemble des impacts à la fois économiques, sociaux, industriels que cela importait pour l'Union européenne. Et donc aujourd'hui, l'Europe se retrouve démunie face à une Chine qui a fortement investi dans ce domaine et qui maîtrise l'entièreté de la chaîne, à la fois d'extraction, de production et de mise en œuvre industrielle de ces métaux. Donc l'Europe se retrouve démunie alors qu'elle avait fortement investi dans ce domaine et qu'elle pouvait avoir une position de leader. Donc je crois que à plus long terme, ces propos nous interrogent sur l'ensemble de la stratégie européenne, c'est-à-dire qu'il semble qu'effectivement l'Europe se soit engagée dans ce processus d'électrification sans avoir véritablement pris en considération les des impacts que cela pouvait avoir à la fois sur les territoires, sur la croissance, sur l'emploi et plus largement sur la stratégie industrielle européenne.
L'Europe a voulu se montrer en la matière herbivore dans un monde carnivore et à la fin ce sera steak, le steak haché en gros de la Chine.
C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on voit que sur la stratégie effectivement du pacte vert, l'Europe a organisé d'une certaine façon son une forme de a pris une position, si je puis dire, morale qui l'amène aujourd'hui finalement à être la victime autodésignée du surinvestissement chinois dans ces matières.
Il y a quelque chose d'expiatoire même dans le choix
européen. Oui, il y a une forme de dimension de cette nature. C'est-à-dire qu'en fait, l'Europe a compté pendant des années sur la croissance chinoise, sur la capacité du consommateur chinois à absorber des produits européens. C'était le cas il y a 15 ans, au moment de la crise de la zone euro. Aujourd'hui, on le voit, la Chine ne déçoit. La consommation chinoise n'est pas au rendez-vous. Vous avez la crise de l'immobilier, la crise de la dette en Chine, et donc la Chine s'est engagée à nouveau dans un processus de dynamisation de ses propres exportations. Et cette fois-ci, ça concerne essentiellement effectivement les batteries, les véhicules électriques, toutes les nouvelles technologies vertes qui aujourd'hui sont prônées par l'Union européenne, mais sans que l'Europe ait mis en place le niveau de production, les outils lui permettant de faire face à cette concurrence.
Pour la Chine, les panneaux solaires, les véhicules électriques, les batteries remplacent l'industrie lourde aujourd'hui.
C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, finalement, on peut considérer que le président Xi mène une politique, si je puis dire, néo-stalinienne, où dans cette logique, ce sont les panneaux solaires, les batteries, les véhicules électriques qui ont remplacé ce qui, il y a plus d'une centaine d'années, était le Okay. Le cas en Union soviétique avec l'industrie lourde.
Pour l'Europe, il n'est peut-être pas trop tard. Les Américains, par exemple, on les voit se protéger, les Américains, effectivement, par une politique douanière, des choix économiques, l'IRA notamment, voilà, on les voit quand même dire, les Américains, c'est pas une fatalité tout ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir face aux véhicules chinois à bas coût. Mais enfin, voilà, ils se donnent des moyens. Est-ce que pour l'Europe, il est trop tard?
Je pense que pour l'Europe, il n'est jamais trop tard, mais il est vrai que les Américains se donnent les moyens, à la fois sur le plan douanier, puisqu'aujourd'hui, les véhicules électriques chinois sont frappés de droits de douane significatif. Il est probable que d'ailleurs que M. Trump, s'il était élu, augmenterait de nouveau encore plus ses droits. En Europe, on doit le reconnaître, nous n'avons pas les mêmes outils. C'est-à-dire qu'en fait, l'avantage des États-Unis, c'est qu'ils ont une politique monétaire et une politique budgétaire cohérente. Ils ont également une politique commerciale qui favorise leur industrie nationale. Ce n'est pas encore le cas en Europe. Mais on peut penser qu'avec ce qui se passe en Ukraine, avec la montée des périls, avec également l'agressivité commerciale de la Chine, l'Europe prenne le bon chemin. On ne peut pas désespérer entièrement du continent.
Les constructeurs européens, les constructeurs automobiles européens, il ne faut pas les acheter ou au contraire, on se dit ils sont à bas prix, il faut justement continuer. Alors Stellantis et Renault progressent bien depuis quelques mois.
Très sincèrement, il faut continuer de défendre l'industrie européenne et notamment les constructeurs automobiles européens. Depuis maintenant plus d'un an, d'ailleurs, vous notez un rattrapage important en termes au moins de valorisation boursière des constructeurs européens. C'est très favorable. On doit aller dans ce sens-là. Néanmoins, on doit également leur donner les marges de manœuvre industrielles et la visibilité qui leur permet effectivement de mettre en œuvre leur projet.
Aude Kersulec nous appelle, 15h47, la Tour Euronext en direct depuis le cœur de cette séance pan-européenne. Rebonjour Aude. Alors c'est intéressant parce que Wall Street Aude aujourd'hui recule un petit peu, mais l'Europe elle progresse. En tout cas le CAC 40 fait mieux que Wall Street pour une fois.
Le CAC 40, oui, mais il fait moins bien que les autres indices européens. C'est vrai que on a ouvert légèrement en hausse, on a rebaissé, et puis là, on ressort un peu la tête de l'eau, mais c'est pas glorieux non plus, plus 0,11% sur le CAC 40, 8160 points. On a un faible volume d'affaires, hein, comme finalement chaque début de semaine. En plus, c'est une semaine assez courte, donc on ne devrait pas non plus forcément s'envoler. Aujourd'hui, on a un milliard de volume d'affaires sur le CAC 40, et puis ça bouge pas forcément non plus beaucoup au niveau des principales des valeurs du CAC 40, puisqu'on a Thales, c'est les valeurs de la défense qui l'emporte aujourd'hui avec forcément un secteur de la défense qui a un contexte géopolitique qui est très perturbé avec l'attentat de Moscou vendredi soir. Donc Thales qui prend 2,3%, et puis ça baisse en revanche pour le secteur bancaire ou encore la tech finalement comme à Wall Street.
Effectivement, puis il y a un relèvement d'opinion sur Dassault Aviation dont Thales profite. En plus, Aude, vous nous rappelez dès que vous le souhaitez, bien sûr, depuis la Tour Euronext. Emmanuel Salle nous accompagne également. Emmanuel, l'Europe en bourse quand même s'en sort pas si mal. Faut bien le dire. Alors aujourd'hui, c'est une belle séance en Europe, on progresse alors que Wall Street recule. Bon, mais ça c'est l'écume des jours. Enfin, depuis le début de l'année, on n'a pas à rougir. Le Nasdaq depuis le début de l'année gagne 9%, notre CAC 7%. On fait presque aussi bien que le Nasdaq. Et en plus, on voit depuis quelques semaines le retour des valeurs de bons pères de famille sur les marchés. Ces valeurs-là recommence à trouver de la performance. Est-ce que ça, c'est de bon augure pour l'Europe?
Oui, je pense que c'est de très bon augure. C'est vrai que l'économie européenne, à la différence des États-Unis, elle est plus diversifiée. Elle repose sur des valeurs plus classiques, à la fois la pharmacie, l'automobile, vous en parliez, les matériaux de base, la construction. On est vraiment dans une économie vraisemblablement plus mature que l'économie américaine, d'une certaine façon. En tout cas, moins portée par des phénomènes de bulle comme nous l'avons connu depuis plusieurs mois. Et ce que l'on observe depuis un petit mois, c'est effectivement un retour des valeurs de rendement, des valeurs d'actifs, des valeurs dites value par rapport aux valeurs de croissance. Et ce que l'on doit reconnaître, effectivement, c'est qu'aux États-Unis, en revanche, vous avez une très forte concentration du marché, vous le savez, sur les 7 magnifiques, essentiellement sur les valeurs de la technologie, qui continuent bien évidemment de performer. Mais néanmoins, on peut s'interroger aujourd'hui de savoir sur quelles valeurs, effectivement, se positionner. Et à cet égard, l'Europe offre, par rapport aux États-Unis, certainement une zone de diversification avec une économie peut-être plus équilibrée et moins sensible effectivement à des secteurs extrêmement extrêmement limités. D'ailleurs, dans cet ordre de d'esprit, on doit savoir qu'effectivement les principaux dirigeants, vous le savez, des valeurs de la technologie ont la semaine dernière annoncé qu'ils procédaient à des ventes importantes de leurs positions. Donc il ne faut pas nécessairement en faire un signal annonciateur, puisque ces ventes ont apparemment trouvé preneur. Mais néanmoins, c'est quand même un élément suffisamment significatif pour le signaler.
Et le fait que les indices soient sur des records en même temps que l'once d'or, $2,180 là cet après-midi, l'once d'or, c'est un plus haut historique. Qu'est-ce que ça, enfin, c'est forcément un réflexe défensif là de la part des investisseurs d'acheter de l'or, ou vous voyez d'autres explications?
Vous le savez, nous à la Financière de la Cité, ça fait longtemps qu'on plaide pour la détention d'or au sein des patrimoines. Entre 10 et 15% me paraît effectivement une position raisonnable, et je ne suis pas surpris que dans un contexte finalement de baisse des taux d'intérêt réels, avec également une montée des tensions géopolitiques, l'or reprenne quelques couleurs. Après tout, c'est une forme de Bitcoin, mais qui repose sur un actif réel. Et à la différence du Bitcoin, l'or est accepté dans toutes les transactions, aussi bien entre les banques centrales qu'entre les particuliers.
J'aurais jamais cru que vous-même viendriez nous proposer un parallèle entre l'or et le Bitcoin. Bien sûr, la communauté crypto, alors là, c'est le premier réflexe. Le Bitcoin, c'est l'or numérique. Je vous ai pas posé cette question sur le Bitcoin, mais vous avez ressenti naturellement le besoin de nous dire l'or, c'est le Bitcoin, mais en mieux. Mais c'est quand même le Bitcoin.
Ce qui est très frappant, c'est que le Bitcoin a besoin finalement aujourd'hui d'être d'une certaine façon officialisé par l'existence d'ETF, enfin d'outils de trading qui permettent aux investisseurs de détail d'intervenir directement sur le Bitcoin. Donc ce qui est très frappant, c'est que le Bitcoin, qui était une forme de fiction à la fois libertaire et ordolibérale, enfin si je puis dire libertarienne, et besoin finalement aujourd'hui de la sanction des États, de la sanction des autorités pour exister dans la sphère financière, alors que l'or, qui de toute éternité est pleinement accepté comme moyen de paiement, n'en est pas besoin et finalement soit aujourd'hui toujours aussi recherché qu'il l'a été dans le passé.
$69,200 pour un Bitcoin, 2180 pour une once d'or. Voilà où on en est aujourd'hui. Et le CAC 40 en légère hausse, mais un peu moins bien. Aude nous le disait, un peu moins bien que les autres marchés européens, notre CAC cet après-midi. Merci beaucoup Emmanuel de nous avoir accompagnés.
Merci Guillaume.
Emmanuel Salle est le président de la Financière de la Cité. Bon retour dans quelques minutes, 16h10, valeur ajoutée. On vous apportera une idée de valeur en plus si vous voulez compléter vos portefeuilles.
BFM Bourse, Culture Bourse.
Culture Bourse chaque jour vers 15h50, parce que cette émission, c'est la vôtre. Julie Cohen-Hurton et son expert vous répondent chaque après-midi. Bonjour Julie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Et oui, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écrire pour avoir une vision d'ensemble sur vos portefeuilles d'investissement. Et ça tombe bien parce que nous, on a plein d'experts pour vous aider à y voir plus clair. Et pour ça, vous le savez désormais, deux options s'offrent à vous. Vous nous écrivez à l'adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr ou bien au QR code qui s'affiche si vous nous regardez à la télévision.
Et aujourd'hui, Julie, cette question d'une bébé auditrice, une très jeune de nos auditrices.
Oui, ça ne nous rajeunit pas. C'est Naomi qui nous a écrit. Naomi, elle nous dit qu'elle a 18 ans et elle veut acheter des actions. Mais évidemment, elle se demande comment les trouver et surtout comment on fait pour les choisir. Eh bien, heureusement, on a Bertrand Lamiel pour Ports en Parts Gestion qui est avec nous. Bonjour Bertrand.
Bonjour messieurs dames.
Alors déjà Bertrand, pour commencer, quand on débute en bourse et qu'on veut acheter des actions, comment on procède? Est-ce qu'il faut choisir une plateforme? Et comment on choisit ses actions? Comment on fait quand on a un petit budget?
Alors bon, Commencer en bourse, c'est bien. Commencer tôt, c'est très bien. Et logiquement, c'est des intervenants qui ont plutôt tendance à apporter des sommes régulières, ce qui va permettre de lisser les à-coups en bourse et d'éviter le sujet est-ce que je dois me lancer, est-ce que c'est pas trop tard, est-ce que c'est pas trop haut. Enfin bref. Donc ça, c'est plutôt plus facile pour constituer ses portefeuilles. Donc ça, c'est le premier point. Et après, nous, on a mis en place une application qui est disponible sur les stores publics, que ce soit Apple ou Android, complètement gratuite, et sur lequel on met une note aux valeurs de 0 à 100. Et ce qu'on constate historiquement, c'est qu'à partir du moment où les notes sont supérieures à 75, c'est le type de valeur qu'il faut acheter et conserver tant que tout se passe bien, c'est-à-dire tant qu'on reste entre 75 et 100. On sait se porter et on accumule gentiment de la performance.
Ça, c'est un premier point de référence pour ceux qui débutent en bourse. Mais est-ce qu'il y a dans l'absolu des règles de base à avoir en tête ou des points d'attention ?
Oui, alors il y a des règles de base qui sont sur la diversification. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout avoir, mais qu'il faut éviter d'avoir quand même tous ses œufs dans le même panier. Donc globalement, si on est en titre vif, entre 20 et 30 titres, c'est bien. Dans les secteurs, on n'est pas obligé d'avoir tous les secteurs. En ce moment, franchement, ce qui se passe bien, c'est plutôt du côté de la tech, de la finance et de l'industrie, ce qui représente en moyenne à peu près 50% de la cote. Donc, il y a moyen quand même d'avoir une certaine diversification à l'intérieur. Et après, ils combattent des idées reçues. Typiquement, souvent, les investisseurs nous parlent de prix de revient. Objectivement, le prix de revient, c'est le reflet du passé. On a été chanceux ou malchanceux quand on est intervenu. C'est pas le sujet, le prix de revient. En fait, il faut regarder ce qui va se passer devant. Ça, les prix de revient, c'est ce qu'on appelle un coût irrécupérable. Il faut se projeter. Si ma valeur a du potentiel, je reste. Si elle n'a plus de potentiel, je sors. Que je sois en fort gain ou en fort plus-value.
Bertrand Lamiel, qui va rester avec nous d'ailleurs en fil rouge tout au long de l'après-midi. Merci beaucoup, Bertrand, d'avoir répondu à cette jeune auditrice de 18 ans. Ça nous fait plaisir d'être écouté par les jeunes également. N'hésitez pas, vous tous, à nous envoyer quotidiennement vos questions. Elles trouvent chaque jour leurs réponses. Les réponses ici dans Culture Bourse de nos experts. Parce que Culture Bourse, c'est un moment, un rendez-vous de pédagogie financière globale et de culture. On va revenir sur cet épisode qui a marqué les marchés aussi au siècle dernier, même celui d'avant, au 19e siècle. Une panique sur l'or. C'était en 1869, Julie, aux États-Unis.
Et figurez-vous qu'on appelle ça le Black Friday. Alors, il ne faut pas le confondre avec le fameux Black Friday qu'on connaît bien aujourd'hui, ce jour de promotion qui nous vient des États-Unis au lendemain de Thanksgiving. Non, là, on parle d'ici de l'une des plus grandes manipulations boursières de l'histoire. Une manipulation qui est donc connue également sous le nom de Gold Panic et qui a donné lieu à une crise financière majeure outre-Atlantique aux alentours des années 1870. À l'origine de tout cela, un groupe d'investisseurs peu scrupuleux dirigé par deux hommes d'affaires américains, Jay Gould et Jim Fisk. On est en août 1869 et les deux hommes, ils décident d'acheter massivement de l'or à prix bas avec évidemment une ambition, celle de faire monter artificiellement le prix pour pouvoir le revendre à un prix élevé. Et ça marche, ils réalisent d'importants, voire des profits astronomiques. Cette même année, Ulysses S. Grant, qui vient tout juste être élu le président des États-Unis, lui, il soutient une politique de relance économique qui est basée sur l'augmentation de la masse monétaire qui est en circulation. Il faut dire que le pays connaît à l'époque une période de forte inflation et de spéculation financière. On est au sortir de la guerre de sécession. Et ça, forcément, ça n'échappe pas aux deux investisseurs américains qui tentent alors de persuader le président américain de retarder la vente d'or par le gouvernement, histoire aussi un petit peu de faire augmenter ses cours.
Les coquins, naturellement, Julie, on s'attend à ce que tout ça ne dure pas. Et ça n'a pas duré.
Ah ben non, ça n'a pas duré longtemps. On est le 24 septembre 1869 et le gouvernement, il décide de vendre une grande quantité d'or sur le marché. En quelques heures, le prix de l'or dévisse, il passe de $160 à $133 l'once et ça entraîne forcément une véritable panique. De nombreux investisseurs sont ruinés et plusieurs banques font faillite. Le Black Friday de 1869, il a eu des répercussions importantes sur l'économie américaine. Il est aussi à l'origine, figurez-vous, de plusieurs réformes financières et notamment de la création de la fameuse Securities and Exchange Commission, la fameuse SEC dont on parle souvent pour réglementer les marchés financiers et prévenir les manipulations à venir. Comme quoi, manipuler les marchés comme celui Arcelor, même si c'est aujourd'hui considéré comme une valeur refuge, eh ben, ça peut avoir des conséquences désastreuses et les investisseurs de l'époque s'en souviennent sûrement.
C'était en 1869. Julie Cohen-Herton, Culture Bourse, un peu de pédagogie financière et de histoire boursière. Intéressant pour approfondir vos connaissances. Merci Julie, ce sera retrouvé en replay bien sûr sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com dans un instant. Nous on se retrouve dans deux minutes pour le suivi de cette séance qui se passe bien. L'Europe fait mieux que Wall Street aujourd'hui, figurez-vous. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.